travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Alors nous voilà à la fin d'une année. C'est l'occasion donc de faire un certain nombre de bilans et d'évoquer l'année à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le monde du travail, la vie devient de plus en plus difficile. Ce sont des dizaines de milliers de travailleurs qui se retrouvent, mois après mois, plongés dans le chômage et dans la misère. Ils sont acculés à la survie, quand les quelques milliers de grands bourgeois et de spéculateurs, qui ne sont que des parasites, prospèrent, aidés par tous les gouvernements qui se succèdent. Ce sont les ouvriers qui payent le plus lourd tribut d'une crise dont on ne voit pas la fin, en étant plongés dans le chômage et dans la misère. Mais l'ensemble du monde du travail est frappé. Les petits artisans, les coiffeurs, les bouchers, les buralistes, les restaurateurs. Parce que la montée du chômage dans une ville, c'est aussi la ruine du petit commerce. Oui, toutes les classes populaires ont vu leurs conditions de vie se dégrader. Et finalement, seuls les PDG des grands groupes peuvent se montrer confiants et optimistes. Même au plus fort de la crise, ils ont réussi, eux, à préserver leurs profits et à garantir les dividendes à leurs actionnaires. Et même les banques, qui sont pourtant les responsables du krach, eh bien même les banques, elles peuvent se frotter les mains. Parce que leurs pertes, eh bien, ne sont pour elles que de vieux souvenirs, d'autant plus vite oubliés que l'État les a épongés à coups d'argent public. Et l'année dernière, alors qu'on nous disait que ça allait encore très mal pour les affaires, alors qu'on a compté chaque jour 1000 chômeurs de plus, eh bien les patrimoines des 500 plus riches de France ont augmenté de 25%. Oui, les grands groupes capitalistes ont profité de la crise. Ils en ont profité pour restructurer, pour licencier, pour fermer les usines et pour intensifier l'exploitation. Et ils en ont profité pour recevoir des aides et des exonérations en tout genre. Ils en ont profité pour faire reculer les salaires, pour faire reculer les droits des travailleurs des années en arrière, de façon à les transformer en main-d'œuvre malléable et corvéable au nom de la compétitivité. Aujourd'hui, ce chantage à la compétitivité s'est banalisé. Tous les grands patrons veulent leur accord de compétitivité, qui forcera les salariés à travailler plus pour moins de salaire et qui forcera les ouvriers à être encore plus mobiles, encore plus flexibles. Et pourquoi se gênerait-il quand, grâce au gouvernement hollandais, toutes ces pratiques ont désormais force de loi? Avec la loi sur la flexibilité, cette loi qui a été appelée Lani, Hollande a en effet accédé aux vœux patronaux les plus chers. Il a su faire passer ce que Sarkozy lui-même n'avait pas osé tenter. Alors aux attaques patronales s'ajoute la politique anti-ouvrière du gouvernement. Une politique anti-ouvrière qui s'exprime aussi au travers de l'augmentation des impôts. Parce que oui, il y a bien un matraquage fiscal, mais il ne concerne pas les plus riches, il concerne les classes populaires. Comme toujours, ce sont les plus riches, c'est la droite qu'on entend le plus sur ce terrain. Tous ces gens-là, ils ont l'habitude de se plaindre, pour un oui ou pour un non. Ils pleurent toujours, même quand ils ont la bouche pleine. Et on peut dire qu'ils sont particulièrement ingrats vis-à-vis du gouvernement. Parce que le gouvernement hollandais n'a pas cessé de leur faire des cadeaux. Comme sous Sarkozy, ils ont eu droit aux exonérations et aux aides diverses. Et Hollande leur a même fait le cadeau du crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards par an. Cadeau auquel même Sarkozy n'avait pas pensé. Alors, entendre aujourd'hui ces messieurs protester contre l'impôt, c'est vraiment le monde à l'envers. Parce que le véritable matraquage fiscal, ce sont toutes ces mesures décidées en douce et qui ont fait que d'un seul coup, près d'1 million de salariés et de retraités modestes qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu sont devenus imposables. C'est cette accumulation de petites réformes qui font qu'un salarié ou un retraité se retrouve à devoir payer 100, 200, 300 euros de plus alors que leur revenu n'a pas changé. Et combien aujourd'hui dans les classes populaires se demandent encore comment ils vont faire pour payer et puis pour joindre les deux bouts. Pendant la campagne, Hollande avait promis une révolution fiscale. Eh bien, il n'est capable que de prendre dans la poche des pauvres pour donner aux riches. Et l'augmentation de la TVA que l'on va subir dans un mois maintenant, très vite, au 1er janvier donc, en est le symbole. La TVA, La TVA est l'impôt le plus injuste qui soit. C'est d'abord l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Et surtout, c'est l'impôt qui frappe indistinctement au même taux les millionnaires et les chômeurs, les smicards, les SDF. Et pourquoi ce gouvernement veut-il augmenter la TVA? Eh bien, comme il l'explique lui-même, pour pouvoir payer le cadeau du crédit d'impôt compétitivité fait au patronat. C'est-à-dire que le gouvernement va prendre 7 milliards dans la poche de monsieur tout le monde, de nous tous. Cette augmentation équivaudra quand même à 100 euros d'impôt de plus par an et par personne. Alors qu'est-ce que c'est, si ce n'est prendre dans la poche des plus pauvres pour donner aux riches? Et il faudrait attendre de ce gouvernement une politique fiscale juste? Eh bien, le faire croire est une tromperie grossière. Du point de vue des travailleurs, la seule politique fiscale juste, ce serait la suppression de tous ces impôts indirects, la suppression de toutes ces taxes qui vont de la TVA en passant à la taxe sur les carburants, en passant par les taxes sur le boisson, le tabac, la télévision. Ce serait que l'impôt sur le revenu ne s'applique pas sur le salaire des travailleurs, ni sur leur pension de retraite, et qu'il ne s'applique qu'aux véritables revenus, c'est-à-dire à l'argent qui est tiré de l'exploitation par le biais du capital. La seule politique fiscale juste, ce serait de faire payer les capitalistes sur les profits tirés de l'exploitation, pas les travailleurs. Outre que le salaire permet tout juste de joindre les deux bouts pour des millions d'ouvriers, il ne représente pas l'intégralité de la richesse produite par un travailleur, parce qu'il est amputé de la plus-value qui finit dans la poche des patrons. Les exploités payent déjà, bien malgré eux, leur tribut au système. Pourquoi paieraient-ils une seconde fois avec des impôts? Les professeurs de morale prétendent que l'impôt est l'acte citoyen par excellence, le prix de nos services publics. Mais les services publics ont bon dos. Les 3 milliards qui sont prévus pour acheter des avions Rafale à Dassault, et heureusement que l'État français les achète, sinon personne n'en aurait acheté des Rafales. Eh bien, ces 3 milliards prévus pour acheter des avions Rafale à Dassault, est-ce que c'est du service public, ça? Les centaines de millions dépensés pour les guerres de l'armée française au Mali ou en Centrafrique, est-ce que c'est du service public? Et les dizaines de milliards d'aides versées aux banques et aux grands groupes capitalistes pour traverser la crise, ce ne sont pas non plus du service public. C'est de l'argent qui est allé grossir les fortunes privées des actionnaires et de la bourgeoisie. En quoi ces milliards ont-ils été utiles à la société? Ont-ils empêché les licenciements? Ont-ils freiné la montée explosive du chômage? Ont-ils permis de secourir les petites entreprises, les petits commerçants, les artisans les plus mal en point? Non plus. Si ces milliards avaient été jetés par les fenêtres, eh bien, ils auraient été plus utiles à la population. Que chaque année, l'État verse aux banquiers près de 56 milliards pour le seul remboursement des intérêts de la dette, résume à lui seul ce qu'est l'impôt, un racket des classes populaires au profit des financiers. La priorité des gouvernements, ce n'est pas les hôpitaux, l'enseignement, les transports, c'est d'entretenir un État, une armée au service de la bourgeoisie, et c'est servir de vache à lait pour les capitalistes de la finance et de l'industrie et de tous les autres parasites. Eh bien, qu'ils se débrouillent pour trouver l'argent auprès de ceux qui en ont, les capitalistes. Mais les travailleurs, eux, n'ont pas à se laisser faire les poches. Gauche, droite, tout le monde est d'accord pour dire que les dépenses publiques sont trop élevées et qu'il est urgent de les baisser. Pour notre part, nous ne sommes pas du tout opposés à la baisse des dépenses publiques qui sont faites au profit des plus riches. Oui, que l'on supprime toutes les subventions qui vont directement grossir les coffres-forts des plus riches, que l'on enlève toutes ces niches fiscales qui font qu'une Madame Bettencourt, une des premières fortunes de France, ne paye que 12% sur l'impôt sur le revenu, que l'on rabote tous ces contrats qui font la prospérité des bétonneurs et des marchands d'armes. Mais il faut refuser toute diminution des dépenses utiles à la population. L'argent mis pour soigner les malades, pour éduquer les enfants, pour développer les transports, contribue au niveau de vie de tous, et surtout au niveau de vie des plus pauvres. Eh bien, le diminuer, c'est appauvrir la population. C'est pourquoi les 15 milliards d'économies que le gouvernement a programmées 15 milliards, hein, toutes les années, pendant 4 ans, eh bien ce ne seront pas des économies pour nous tous, ce ne seront pas des économies pour les classes populaires. Ce sera de nouveaux sacrifices, parce que ce que les services publics n'assureront plus, eh bien il faudra le payer, et le payer plus cher encore. Alors oui, aux dépenses publiques utiles à la population, mais encore une fois, il n'y a pas de raison qu'elles soient payées par les travailleurs qui font déjà tout dans cette société et qui sont à la base de toutes les richesses créées. Que les possesseurs de capitaux et les rentiers payent, seuls les impôts, ne serait que justice. Et ce ne serait encore qu'un petit bout de justice. Car que peut-il y avoir d'équitable dans ce système capitaliste basé sur l'exploitation ? Dans un système où l'enrichissement de quelques-uns est basé sur l'appauvrissement du plus grand nombre. La justice élémentaire demanderait que chacun puisse gagner sa vie en travaillant, que chacun ait un salaire. La justice, elle imposerait qu'il soit mis fin à l'exploitation et au vol du fruit du travail des classes productives. Ce serait que les travailleurs puissent décider ensemble de l'utilisation et de la répartition de toutes les richesses créées collectivement. La véritable justice, ce serait l'expropriation des exploiteurs et la gestion des moyens de production qui sont immenses pour satisfaire les besoins de tous, c'est-à-dire l'organisation communiste de la société. Le principal combat pour les travailleurs, c'est le combat contre les licenciements. Là encore, bien sûr, il ne faut pas compter sur le gouvernement. Il faut que les travailleurs ne comptent que sur eux-mêmes et sur leur lutte. Mais se mobiliser, manifester, mettre un bonnet rouge, vert ou je ne sais de quelle couleur ne suffira pas. Les travailleurs ne pourront garantir leur emploi et leur salaire qu'à condition qu'ils se battent, mais pour leurs revendications. Il n'y a pas un jour sans que les travailleurs se battent, entreprise par entreprise, service par service. Et demain, d'autres travailleurs frappés par les licenciements se mobiliseront aussi. Mais pour peser politiquement, eh bien, il faut que les travailleurs fassent de toutes ces luttes une seule et même lutte, une lutte contre les licenciements. Personne ne le fera à leur place, et sûrement pas le patronat, quand bien même il se pose toujours en défenseur de l'emploi. Tous les patrons qui veulent des aides s'abritent derrière la sauvegarde de l'emploi. Mais depuis le début de la crise, les banquiers comme les grands groupes ont encaissé des milliards de l'État. Et ils ont continué à licencier, comme si de rien n'était. Alors l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire, sont des exigences communes à tous les travailleurs et doivent faire l'objet de nos combats futurs. Comment ne pas se sentir menacé quand le chômage frappe indistinctement les anciens comme les plus jeunes, les travailleurs qualifiés comme ceux qui ne le sont pas, les ouvriers des petites entreprises, comme des grandes. Comment ne pas voir que le licenciement, c'est aussi une arme qui est utilisée par le patronat pour faire pression sur tous les travailleurs et pour aggraver l'exploitation de tous. La fermeture d'une usine, je l'ai dit, c'est aussi un drame pour les buralistes, les coiffeurs, les restaurateurs, les garagistes qui voient tout leur commerce déserté. Alors oui, l'interdiction des licenciements est une mesure de salut public. Le combat des travailleurs contre les licenciements n'est pas un combat catégoriel. C'est se battre pour la jeunesse. C'est se battre pour que la classe productive ne soit pas poussée vers la déchéance. C'est sauver ce que la société a de plus vital. Les ouvriers et les travailleurs indépendants qui ne vivent que de leur travail ont des intérêts communs et ils peuvent se retrouver dans bien des combats. En revanche, ils doivent récuser l'idée qu'ils ont quelque intérêt commun avec le grand patronat. Les travailleurs ont mille fois raison de manifester leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement, mais ils doivent le faire sur la base de leurs revendications et contre le grand patronat exploiteur. Il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation et contre tous ces cadeaux qui sont faits au patronat et qui démolissent la sécurité sociale, les salaires, les services publics et qui se traduisent pour nous tous en impôts nouveaux. Oui, les travailleurs doivent lever leur propre drapeau, le drapeau des exploités. Depuis plusieurs années, nous disons qu'il faut populariser autour de nous un programme de lutte pour les travailleurs. Eh bien, on mesure aujourd'hui, avec les manifestations qui ont eu lieu en Bretagne et qui ont mobilisé beaucoup d'ouvriers, on mesure toute l'urgence qu'il y a de le faire. Pour que les travailleurs mobilisés ne se laissent pas entraîner dans de faux combats et pour qu'ils ne se mettent pas à la remorque des intérêts patronaux, eh bien, il faut relayer dès aujourd'hui les revendications des travailleurs. Il faut en discuter autour de nous et il faut les faire partager. La priorité et l'urgence pour les travailleurs, c'est la fin des licenciements, l'interdiction des licenciements et le partage du travail sans diminution de salaire, de façon à résorber le chômage. De la même façon que tout le monde trouve légitime et naturel qu'il y ait une trêve hivernale, c'est-à-dire l'interdiction faite aux propriétaires d'expulser leurs locataires pendant l'hiver, eh bien, il faut qu'ils trouvent aussi légitime et naturel que l'on impose l'interdiction au patronat de licencier. Parce qu'aujourd'hui, perdre son travail, c'est perdre aussi ce que l'on a de plus nécessaire. Et pour résorber le chômage, eh bien, il faut qu'il y ait des embauches. Des embauches partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leurs congés. Il faut des embauches en CDI, de vrais emplois avec des salaires pleins et entiers. Et il faut arrêter avec tous ces contrats précaires scandaleux, où tous les 2 ans, un travailleur en remplace un autre, mis au chômage. Oui, il faut arrêter de concentrer tout le travail sur des salariés de moins en moins nombreux, mais au contraire, imposer de le répartir avec un salaire plein et entier, parce qu'un emploi et son salaire qui va avec est la seule richesse des travailleurs. Et le revendiquer est un droit légitime. Les patrons font de leur profit la priorité, eh bien les travailleurs doivent faire de la lutte pour leur emploi et leur salaire leur priorité. Les grands groupes ont de quoi payer les salaires des travailleurs. Et à défaut, eh bien qu'ils puisent dans les fortunes accumulées par les grands actionnaires et les difficultés éventuelles, y compris des plus petites entreprises. Eh bien, elles doivent être palliées par les plus riches, par les plus fortunés, par les banques, celles-là même que l'État a aidées pour traverser la crise. Mais les travailleurs, eux, ils n'ont pas à servir d'amortisseurs. Et pour chacun vivre dignement aujourd'hui, eh bien, il faut relever le SMIC. 3 millions de salariés sont aujourd'hui payés au SMIC, avec 1100 euros net par mois. Et ce n'est pas avec la revalorisation qui va avoir lieu le 1er janvier, 10 centimes de l'heure, 12 euros de plus par mois. Ce n'est pas avec cette revalorisation que les travailleurs vivront mieux. Alors oui, il faut relever le SMIC et il faut le porter à 1700 euros net et il faut obtenir surtout qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances et ce, pour tous les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour les minima sociaux. Si aujourd'hui, des salariés demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse. C'est parce qu'ils touchent justement des salaires de misère. Le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires, n'ont rien à voir avec du volontariat. C'est pour les travailleurs sous-payés une situation qui est imposée, qui est forcée. Alors cette question du travail du dimanche masque un seul problème. C'est celui de l'augmentation des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution, c'est bien le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires et pour leur indexation automatique sur l'inflation, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Ce sont des revendications élémentaires. Et à travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer leur droit tout simple à la vie. Mais c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours. Il n'y a plus d'argent. Augmenter les salaires, embaucher, c'est impossible. Il y a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. On ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie, les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent tout à fait normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui seront dilapidés dans des caprices de riches ou pire encore, dans la spéculation. Oui, le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Alors il serait plus que normal que les travailleurs concernés par des licenciements ou confrontés à des attaques aient accès à toute la comptabilité, puissent connaître l'état réel des entreprises, ses bénéfices réels, ses dettes, ses participations à d'autres entreprises, l'utilisation des dividendes. Dans une période de montée des luttes, les travailleurs pourraient imposer collectivement ce contrôle, parce qu'ils reprendraient confiance en eux et ils pourraient prendre l'habitude de tout dire, de tout mettre sur la place publique. Et on pourrait alors tout savoir sur la comptabilité, sur les prix, sur les magouilles des bourgeois, petits et grands. On pourrait tout savoir de ces fameuses charges dont tous les patrons nous disent qu'elles pèsent trop lourdement. Mais combien versent-ils de dividendes à leurs actionnaires ? Combien versent-ils de millions au PDG ? Combien mettent-ils de millions en réserve pour payer ces fameux parachutes dorés et autres retraites dorées ? Combien payent-ils aussi aux banquiers ? Combien payent-ils pour louer leurs locaux aux spéculateurs immobiliers ? Combien payent-ils aux assureurs ? Et dans cette transparence générale, eh bien, on verrait aussi combien rapporte un salarié. Et on mesurerait alors toute l'escroquerie qui consiste à parler de coût du travail. Parce que le coût du travail, cela n'existe pas. Le travail ne coûte pas aux patrons. Il leur rapporte. Et le moindre centime que la bourgeoisie gagne lui vient de l'exploitation du travail. Les millions d'euros que dépensent les riches pour s'assurer leur train de vie de parasite est extrait de la peine et de la sueur des travailleurs. Alors voilà ce que dévoilerait le contrôle des travailleurs. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, la levée de ce secret doit faire partie du programme des travailleurs. Pour défendre leurs conditions d'existence, les travailleurs doivent se battre pour leurs intérêts, pour le programme que je viens de décrire. L'interdiction des licenciements, l'indexation des salaires sur les prix et le contrôle sur les comptes de la bourgeoisie. C'est en combattant les capitalistes de la distribution, de l'industrie et de la finance que les travailleurs entraîneront derrière eux les autres catégories sociales qui vivent de leur travail sans exploiter personne. Mais ce sont bien les ouvriers, les exploités, qui doivent prendre la tête du combat, car ils sont les seuls à n'avoir aucun intérêt à cette société d'exploitation, les seuls à pouvoir contester la dictature de la bourgeoisie et de ce système capitaliste qui ruine toutes les classes populaires et qui pèse sur toute la société. Et encore une fois, les travailleurs ne pourront le faire que s'ils ont leur propre programme, leur propre politique indépendante, leur propre parti et une profonde conscience de leurs intérêts. Les responsables de la bourgeoisie et leurs larbins nous serinent leurs solutions du matin jusqu'au soir. Tantôt, ils nous parlent d'innovation, ensuite du remboursement de la dette, et puis du protectionnisme, de la sortie de l'euro. Eh bien, les travailleurs doivent opposer à toutes ces politiques qui répondent aux problèmes des bourgeois, leurs propres politiques, leurs programmes, qui répondent à leurs problèmes. Revenir à ce programme de lutte, le populariser contre tous les mensonges de la bourgeoisie, affirmer que la classe ouvrière doit le brandir en toute indépendance doit être pour nous une boussole. C'est aussi la meilleure manière pour ne pas tomber dans un autre piège, dans le piège de la propagande sur la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de cette compétitivité devait être le seul et l'unique objectif de toutes les politiques publiques. Depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes s'y sont convertis. Et même certains syndicalistes s'y sont mis. Mais pour les travailleurs, eh bien cette compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, c'est le travail à la tâche, ce sont les salaires de misère. Aujourd'hui, nous sommes en 2013, eh bien celui qui revendique un emploi en CDI, la retraite pleine et entière à 60 ans, avec 37,5 annuités de cotisation, celui qui revendique un salaire digne de ce nom, est au pire un dangereux extrémiste, au mieux un utopique. C'est-à-dire que ce qui existait il n'y a de cela que 20 ans est devenu aujourd'hui une folie utopique. Eh bien voilà le résultat de la course à la compétitivité. La compétitivité et le capitalisme, ce sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les travailleurs dans la guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de marcher, comme ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie qui est basée sur leur propre exploitation et basée sur leur appauvrissement. Faut-il accepter que nos vies dépendent des commandes que son patron saura arracher au détriment d'autres travailleurs ? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires que son patron réussira à faire ? Non, les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de cette propagande. Ils doivent revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière, c'est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. Si ce système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et à en vivre, eh bien il faut le renverser. Les travailleurs ne pourront se défendre efficacement que s'ils ont conscience qu'ils doivent combattre et le grand patronat et le gouvernement. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Beaucoup, à droite comme à gauche, critiquent la politique du gouvernement en accusant Hollande d'indécision et de manque d'autorité. Mais prenez ArcelorMittal, qui est revenu dans l'actualité. Eh bien, souvenez-vous, Hollande a défendu Mittal. Il est resté ferme, il n'a pas reculé malgré la pression en faveur de la nationalisation du site de Florange. Prenez Peugeot Citroën. Face à la fermeture de l'usine de PSA d'Aulnay-sous-Bois, Hollande est resté ferme encore. Il a défendu la famille Peugeot. Il n'a pas reculé face aux ouvriers qui ont fait grève pendant 4 mois contre la fermeture de l'usine. À chaque fois que Hollande a reculé, il a reculé vis-à-vis des plus riches. Sur les impôts, il a reculé pour les plus riches, pas pour les plus modestes. Eh bien ça, c'est un cap, c'est une politique de classe. Hollande gouverne pour servir les intérêts des capitalistes. Il a été formé, sélectionné pour cela. On nous dit que nous sommes en démocratie et que la population choisit ses dirigeants par les élections. Mais une série de filtres présélectionne le personnel politique en fonction de son dévouement au système. Pour être à la tête des grandes villes, des départements, des régions ou au gouvernement, il faut avoir montré patte blanche vis-à-vis des financiers et des capitalistes. Il faut avoir fait la preuve de sa loyauté. Et de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre Sarkozy et Hollande. Cela a amené Hollande à faire une politique anti-ouvrière. Cela l'a amené à faire le cadeau du crédit d'impôt compétitivité. Cela l'a amené à mettre en place la loi sur la flexibilité. Cela l'a amené à attaquer les retraites. Cela l'a amené à augmenter les impôts jusqu'à la TVA qui pèsera encore sur les plus modestes. Eh bien, il n'y a pas à s'en étonner. Oui, le gouvernement mène une politique anti-ouvrière et il est payé pour cela. Eh bien, le gouvernement mène la même politique que la droite. Les travailleurs doivent le combattre comme si c'était un gouvernement de droite. Les travailleurs réagiront tôt ou tard aux attaques. Mais pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, eh bien, il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées communistes révolutionnaires que le mouvement ouvrier a portées pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu aussi des idées bien plus générales, celle de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère injuste, incontrôlable, anachronique. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation et à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. C'était la perspective de détruire la société capitaliste et de la remplacer par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ces idées et de ces valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est affaiblie au fur et à mesure des trahisons des partis ouvriers. Du Parti socialiste d'abord, puis plus tard, du Parti communiste. Tous deux ont fini par s'intégrer dans la société bourgeoise et ils se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. À cela s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales. Et je parle des directions nationales des syndicats. Parce que dans le meilleur des cas, elles font mine de s'opposer, elles organisent des baroudes d'honneur, mais sans réellement armer les travailleurs moralement, sans leur donner de perspective. Et au pire, eh bien, elles justifient. Et elles appuient les attaques du gouvernement et du patronat en allant jusqu'à contresigner des mesures qui sont anti-ouvrières. Alors voilà comment tous ceux qui prétendent être du côté des travailleurs ont contribué à distiller au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées de la bourgeoisie. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs, rebaptisés classe moyenne, reprennent les idées de la bourgeoisie. Reprennent toutes ces idées que répètent les politiciens et qu'on nous distille à la télé, dans la presse, c'est-à-dire que l'économie doit être compétitive et qu'en fin de compte, il faut bien des riches et puis que l'intérêt des exploités, c'est que les exploiteurs s'enrichissent. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes qui étaient étrangères au mouvement ouvrier sont présentées aujourd'hui par beaucoup comme des évidences. Aujourd'hui, il est beaucoup question de la remontée des idées racistes dans la société. Comme à chaque crise, ce sont les pires préjugés qui remontent à la surface. Et ces préjugés s'expriment d'autant plus que la caste politique les chevauche, pour des raisons électoralistes. C'est bien sûr l'extrême droite qui en fait son fond de commerce. Mais la droite aussi lui court derrière. Et quand Valls déclare, droit dans ses bottes, que les Roms ne peuvent pas s'intégrer et qu'il faut donc les chasser, eh bien lui aussi, il fouille dans les poubelles du Front National. Parce que faire croire que 17 000 Roms est un problème insoluble pour un pays de 65 millions d'habitants, c'est vraiment abject. Et puisque l'immigration est revenue au centre du débat, je voudrais aussi en dire deux mots. Je voudrais d'abord dire que la vie de beaucoup de travailleurs et celle de perpétuels nomades. Ici, en France, il s'agit le plus souvent de faire quelques dizaines de kilomètres pour changer d'usine, pour changer de ville, pour trouver du boulot. Mais les travailleurs des pays pauvres sont, eux, forcés de faire des milliers de kilomètres, de changer de continent, de langue et d'abandonner leurs attaches. Aujourd'hui, il paraît que de plus en plus de jeunes Français diplômés tentent une carrière à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Singapour. Personne ne leur conteste ce droit. Eh bien, il n'y a aucune raison d'en priver les autres travailleurs. Quelle que soit sa nationalité, son origine ou ses papiers, tout travailleur doit être libre de circuler et de s'installer où il le souhaite. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait Marx, tant il est vrai que le sort que le capitalisme réserve aux prolétaires, c'est d'aller là où il y a du travail. Tant il est vrai que rien ne sera jamais donné aux exploités, jamais assuré, et pas même ce droit de se faire exploiter dans le pays où ils sont nés. C'est pourquoi le mouvement ouvrier conscient s'est toujours battu contre ceux qui voulaient opposer les travailleurs les uns aux autres, en fonction de leur nationalité ou de leur origine. Eh bien, cette solidarité de classe et l'internationalisme doivent continuer de constituer les valeurs de la classe ouvrière. Le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuses et indispensables. Oui, il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs. Une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent. Une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. Il faut continuer à faire entendre cette voix comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes. Et pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir aux élections municipales et européennes entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste, de l'économie et sur le terrain de la bourgeoisie. Et pour que les travailleurs puissent faire entendre leur camp contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, nous essaierons d'être le plus présents possible dans ces deux élections. Dans ces deux élections, nous ferons entendre la voix de ce courant du mouvement ouvrier qui considère que les travailleurs n'ont pas à choisir entre tous ceux qui ont pour perspective de perpétuer l'esclavage salarial, mais qu'il faut que dans cette élection, comme dans toute la vie politique, les exploités défendent leurs intérêts pour l'immédiat, mais aussi pour l'avenir de la société. Les municipales constituent la première possibilité électorale de rejeter la politique de Hollande et du Parti socialiste. Ces élections sont locales, mais la signification qu'on donnera au vote aura un caractère national. Et c'est dans l'ordre des choses, parce que les problèmes qui se posent à la population en général et aux exploités en particulier ne sont pas des problèmes locaux ou municipaux. Alors il faut que les travailleurs puissent rejeter la politique du gouvernement d'un point de vue de classe, du point de vue des intérêts des travailleurs. Il suffit de discuter autour de nous pour savoir que dans les milieux populaires, certains envisagent de voter pour le Front National pour exprimer justement ce rejet de la politique gouvernementale. Mais croire qu'il est possible de rejeter la politique anti-ouvrière du gouvernement et le cirque politicien en votant pour le Front National, c'est se tirer une balle dans le pied. Le Front National, s'il parvenait au pouvoir, gouvernerait au profit de la bourgeoisie, comme les Sarkozy et Hollande, comme ce fameux UMPS qu'il dénonce. Mais il le ferait dans sa variante la plus autoritaire. Et le simple fait que le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés, c'est-à-dire une partie de la classe ouvrière, une partie de notre camp, fait de ce parti un ennemi mortel pour les travailleurs. Certains se disent que voter pour le Front National donnera un coup de pied dans la fourmilière. Mais si le vote Front National a un effet, et peut-être en aura-t-il un, eh bien il sera dans le sens contraire aux intérêts des travailleurs. Le vote Front National sera interprété comme une critique du gouvernement sur sa droite, parce que les votes venant des pauvres se mélangeront avec ceux des pires réactionnaires, avec tous ces petits patrons anti-ouvriers qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA, les syndicats. Ils se mélangeront avec le vote des nostalgiques des colonies, de l'OAS, des racistes. Voter Front National sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs, plus dure contre les syndicats, plus dure contre les travailleurs qui veulent s'organiser et qui veulent se défendre. Alors oui, pour un travailleur, voter Front National, c'est tendre le fouet pour se faire battre. Bien sûr, il faut rejeter le gouvernement. Mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière, en mettant en avant les intérêts des travailleurs. Et en plus d'exprimer une colère contre le gouvernement, eh bien il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer sa colère, de se défendre, et de se défendre contre le grand patronat. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer sa colère contre les marionnettes. Il faut viser aussi ceux qui tirent les ficelles. La bourgeoisie, les financiers, les actionnaires. Il faut viser les licencieurs, les exploiteurs, tous ces parasites qui s'engraissent sur le travail de tous. Pour faire reculer le patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer dans les élections, et ce sera le cas dans les prochaines municipales et européennes, eh bien il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre ses serviteurs politiques, toutes obédiences confondues, du Parti socialiste jusqu'au Front national, en passant bien sûr par la droite et par le centre. Il s'agit de poursuivre le combat mené par des générations de militants, pour doter la classe ouvrière d'une conscience de classe, pour l'armer politiquement. Au regard de cette perspective immense, se présenter aux élections municipales ou aux européennes peut sembler bien mince. Mais c'est peu, peut-être, mais c'est aussi beaucoup, parce que c'est à travers tous ces combats politiques, y compris à l'occasion d'élections, que peut émerger et se forger un parti politique qui représente les intérêts des travailleurs, un véritable parti communiste. Alors, pour finir, je fais appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui voudraient apporter leur pierre, que ce soit à l'occasion des prochaines élections ou au travers de nos différentes activités. Il y a de la place pour tous. Le mouvement ouvrier s'est développé à travers la collaboration de centaines, de milliers de femmes et d'hommes qui ont apporté leur contribution. Eh bien, chacun peut aider aujourd'hui à sa façon et nous avons besoin de tous.